Cette voix étonnante n'est pas celle d'une femme, c'est celle de Klaus Nomi. Je vous rappelle que nous suivons aujourd'hui notre troisième partie sur le thème « La religion par les femmes », largement inspirée d'un livre publié aux éditions Labor et Fides par Nancy Auerfolk et Rita McGross, deux Américaines, qui n'ont pas écrit elles-mêmes toutes les contributions de ce livre, mais qui ont réuni la contribution de beaucoup de personnes, hommes et femmes, sur le thème « La religion par les femmes ». Après avoir découvert le portrait de deux autres femmes dans d'autres régions du monde, Julia, femme de vin au Mozambique, et Jananda, mère gourou à Madras en Inde, aujourd'hui, après avoir suivi une interview de mère Sophia qui vit à Lausanne et qui est de religion orthodoxe, interview que vous pouvez retrouver dans le journal Femmes Suisses de ce mois. Eh bien, nous découvrons maintenant le portrait de Dorothy Day, une femme qui a reçu le titre de mère universelle catholique et qui met en cause le pouvoir des femmes dans la religion catholique. Cet article écrit à propos de Dorothy Day a été lui-même la contribution de Debra Kemple, qui travaille dans les universités américaines. D'ailleurs, Dorothy Day est américaine et on évoque surtout le rôle qu'elle a pu jouer dans l'Église catholique américaine, bien évidemment. Dorothy Day s'est vue attribuer le titre de mère universelle catholique, et ceci essentiellement pour le rôle qu'elle tint en tant que mère, principalement pour Peter Morin, qui fondera avec elle le mouvement ouvrier catholique, mais aussi bien sûr pour toute une série d'autres personnes qu'elle a croisées au cours des nombreuses années de son engagement, entre autres dans ses foyers qui accueillaient les ouvriers et autres pauvres dans les banlieues américaines de New York ou de Washington. Alors l'archétype de la mère universelle qui avait été choisie pour désigner Dorothy Day, en fait, nous rend bien sûr attentifs à d'autres aspects importants de sa fonction au sein de cette communauté auquel elle voulait absolument s'engager. Elle fait penser, par exemple, à la déesse mère des anciennes religieuses, cette figure féminine pleine de puissance, à la fois vierge et mère, épouse et sœur, qui sauvait le dieu mourant du pouvoir du monde souterrain. Dorothy Day n'était pas une mère universelle catholique uniquement parce qu'elle se mettait au service des autres en s'oubliant elle-même. L'archétype de la déesse mère est bien plus riche. Elle n'était pas mère Teresa, fille soumise de l'Église qui se contente de panser les plaies causées par le système sans se demander comment on pourrait intervenir à l'origine du mal. Par exemple, on souligne l'autorité primordiale que Dorothy Day et sa critique pénétrante du statu quo qui firent d'elle un symbole simplement parce qu'elle se refusa de tout temps, par exemple, à accepter la guerre, l'injustice et la pauvreté. On la compare au Christ et au Bouddha, et en donnant cette explication, à la longue, il ne restait plus rien à dire ni à faire, alors qu'elle se tenait là, debout, ou s'asseyait, comme le Christ ou le Bouddha. Elle était le point fixe, son mouvement tournait autour d'elle. Et en cela, et par exemple Daniel Berrigan, qui a beaucoup écrit sur elle, insiste, rester immobile peut être un acte révolutionnaire. Beaucoup de personnes ont rendu grâce à Dorothy Day parce qu'en fait, elle a ouvert la voie en septembre 1980 à la destruction des réacteurs nucléaires de King of Prussia en Pennsylvanie. Et le meilleur hommage que nous puissions adresser à Dorothy Day, dit-il, serait de nous tenir debout et de nous asseoir quelque part, ou de nous asseoir quelque part, nous aussi. Alors le pouvoir de Dorothy Day qu'elle exerçait en tant que mère universelle n'a que peu de ressemblance bien sûr avec le genre d'autorité requise pour commander un sous-marin ou une société commerciale. De son style maternel de direction, on apprend en fait que le genre de chef qui rend le plus de service à un mouvement, c'est celui qui, comme les meilleures mères, entraîne les autres à dépasser leurs limites pour faire valoir leur propre pouvoir, leur propre vision des choses. Et lorsque Dorothy Day mourut, beaucoup de gens se demandèrent si le mouvement ouvrier catholique qu'elle avait dirigé pendant toutes ces années lui survivrait. Il a effectivement continué, et les éditeurs du journal L'Ouvrier catholique, les éditeurs actuels, bien sûr, ont tout à fait consciemment décidé de dépasser les positions de Dorothy Day et de Peter Morin pour rester dans l'esprit du mouvement originel. Les ouvriers catholiques, quant à eux, le mouvement ouvrier catholique, ont appris de Dorothy Day à chercher la source du renouvellement et de la croissance dans leur communauté plutôt que d'aller la chercher en dessus ou au dehors. Alors l'autorité qu'incarnait Dorothy Day en tant que mère universelle catholique est du genre à donner de la force aux autres plutôt qu'à se fortifier soi-même. En dernière analyse, c'est la seule sorte de pouvoir qu'on puisse transmettre avec confiance aux générations futures d'hommes, mais surtout de femmes. Alors, est-ce que la vie de Dorothy Day peut nous apporter un enseignement sur le pouvoir féminin dans l'Église catholique romaine ? Elle démontre en tout cas qu'une femme a au minimum la possibilité de constituer et de diriger un mouvement décentralisé en faveur de la paix et de la justice, tout en restant une catholique romaine fidèle et même, faut-il bien le dire à propos de Dorothy Day, même dévote. Elle indique que le modèle d'autorité hiérarchique n'épuise pas toutes les possibilités ouvertes à l'Église. En fait, la structure familiale élargie que défendait Dorothy Day pourrait se révéler un modèle plus compatible avec une position solide en matière de paix et de justice. L'expérience de Dorothy Day illustre implicitement qu'il est plus sage et plus efficace de se confronter aux problèmes plutôt qu'aux autorités, pour autant que ce soit possible. Thank you. Je vous rappelle que c'était le Balanescu Quartet qui nous a accompagnés tout au long de cette émission sur troisième émission sur la religion par les femmes. Nous découvrirons d'autres histoires de religion partout dans le monde. Vous avez peut-être suivi le débat autour de la rencontre entre musulmans et chrétiens dans le courrier. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Il y a en ce moment vraiment une effervescence autour de la discussion entre religions. C'est ce qui nous intéresse, même si nous-mêmes, nous n'avons pas un engagement particulier dans les religions, mais de se mettre à l'écoute de ce que d'autres recherchent nous semble intéressant, surtout, évidemment, lorsqu'il s'agit de la place des femmes dans ce débat. Voilà pour aujourd'hui sur le thème « La religion par les femmes », c'est terminé. Je vous propose une fin d'émission en musique et je ne résiste pas au plaisir de vous faire réentendre Mercedes Sosa.
Le llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos allá en los cañaverales cuando la noche viene llegando por entre los surcos se ven de lejos los cucos de los cigarros por entre los surcos se ven de lejos los cucutucos de los Solcito del camino, lunita de mis pagos. En la pobrecita samba del surco cantan sus penas los tucumanos. La 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 la. Mi samba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos. En la pobrecita samba del surco cantan sus penas los tucumanos. Tra la 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 la.
C'est la très belle voix d'Elena Leda, qui est une chanteuse sarde que vous venez d'entendre et avec qui je vous propose de passer les quelques minutes qu'il nous reste pour notre émission aujourd'hui, Onde Femme en Rome Ménage, Radio Zone 93.8. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous soutenir en tant que radio des femmes ou radio des différences en nous offrant, si je puis dire, en vous offrant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses ou 100 francs français. C'est tout simple. Il suffit d'appeler notre numéro de téléphone, de donner votre nom, votre adresse. Nous vous envoyons la dite carte et un bulletin de versement. Donc le numéro, c'est le 50 40 51 41. Je répète, 50 40 51 41. 023 si vous appelez depuis la Genève voisine, 0033 depuis la Suisse romande proche, ceci jusqu'à Yverdon, Lausanne et aux portes de Fribourg, paraît-il. Voilà, et cet argent nous aide à faire vivre notre radio pour continuer à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas sur les autres radios. Pour quelques minutes encore, Elena Leda, une chanteuse sarde.
Ah.
Voilà, Onde Femme remue ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. La semaine prochaine, eh bien, nous sommes en vacances. Nous vous proposons une rediffusion et nous nous retrouverons le 2 mars, je crois bien que c'est ça la date, oui, 2 mars, en direct, sur nos ondes, Radio Zone 93.8. Mais tout de suite et très bientôt, c'est les informels de Radio Pleine Lune.
A mezzo aprile non fiori rosa, colorita che tu è attraente, tu è vaghesa, amante un serpente, con sorrisito tuo soi mirada, con sorrisito tuo soi mirada, barambindera la barambindera dai, barambindera la barambindera dai, barambindera. Con tu magradas, canta soso, io mio se grascioso, a me s'aprile no fiori rosa, colorida che tu è attraente, tu è vaghezza, amante un serpente, con sorrisito tuo soi mirada, con sorrisito tuo soi mirada.